La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Lanjou.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Loup Bourget. Bonjour Jean-Loup Bourget.
Bonjour.
Vous avez été et vous êtes professeur émérite d'études cinématographiques à l'ENS. Et vous êtes également critique de cinéma à la revue Positif. Et vous êtes connu pour un certain nombre de vos ouvrages consacrés au cinéma états-unien classique. Mais également, vous vous êtes intéressé aux Européens qui ont franchi l'Atlantique et qui ont travaillé pour toute une série de raisons à Hollywood, raisons sur lesquelles nous allons revenir. Et vous êtes intéressé également au rapport entre les arts, la littérature et les arts visuels, bien sûr le cinéma, mais également la peinture. Donc vous êtes l'auteur d'ouvrages soit seul, soit en co-direction. Parmi ces ouvrages, on peut en citer quelques-uns. Hollywood, la norme et la marge, qui a été publié chez Armand Collin en 1997 et réédité en 2000. Mais également Hollywood, un rêve européen, toujours chez Armand Collin en 2006. Et puis toute une série de monographies qui ont été consacrées à des réalisateurs soit états-uniens, soit européens, mais qui ont poursuivi leur carrière aux États-Unis. Alors pour les États-Uniens, je pense en particulier à John Ford, mais pour les Européens qui ont poursuivi leur carrière aux États-Unis, eh bien, il y a par exemple Fritz Lang, auquel vous avez consacré une monographie en 2009, ou plus près de nous, Alfred Hitchcock. Et parmi les ouvrages que vous avez co-dirigé, je vais en citer un là aussi, Le classicisme hollywoodien, publié aux Presses universitaires de Rennes en 2009, collection Le Spectaculaire, avec co-dirigé avec Jacqueline Nakache. Et vous nous avez proposé une balade, une réflexion autour de l'œuvre de Douglas Sirk, sur lequel nous allons revenir, et en particulier autour de 4 procès situés dans 4 films différents, à 4 époques différentes dans l'œuvre cinématographique et en même temps dans des contextes différents. Pourquoi ce choix de Douglas Sirk ?
Alors, le choix, il est dû en partie à un intérêt très ancien, puisque j'ai dû découvrir Sirk quand je commençais à être vraiment un cinéphile. Et le premier film de lui que j'avais vu était un film peut-être pas très caractéristique, puisque c'était ce qu'on appelait à l'époque un péplum, le signe du païen. Mais j'avais découvert ce film et j'avais commencé à m'intéresser au cinéaste je parle des années 1960, hein, et que auquel j'ai écrit, que j'ai rencontré, puisqu'il était encore en vie à l'époque. J'ai eu un peu de mal parce qu'il était revenu en Europe, mais je ne savais pas très bien où il était. Je croyais que les dernières nouvelles qu'on avait, il était à Munich, mais en réalité, il n'était plus à Munich, où j'ai cherché en vain sa trace et son adresse. Et j'ai fini par savoir qu'il s'était retiré plus ou moins dans le Tessin, en Suisse italienne, donc à Lugano. Et donc je me suis intéressé de près à ce cinéaste, donc toute l'œuvre n'était pas accessible à l'époque, c'était assez compliqué. Il y a eu un livre très important qui l'a fait connaître, qui était un livre d'entretien avec John Halliday, un chercheur irlando-britannique qui s'est lui aussi passionné pour Sirk, qui a réalisé de longs entretiens, mais dans certains cas, donc, Sirk n'avait pas pu revoir les films qu'il avait réalisés, et Halliday n'avait pas pu les voir non plus. Enfin, bon, mais ça a lancé vraiment ça a fait redécouvrir ou découvrir Sirk à beaucoup de cinéphiles des deux côtés de l'Atlantique. Mais bon, je ne veux pas être trop long sur ce point-là, mais en même temps, il y avait une raison plus récente pour ma proposition, c'est qu'il y a eu à l'automne dernier, à la Cinémathèque française à Paris, une rétrospective vraiment intégrale de l'œuvre de Sirk. Et je me suis avec plaisir replongé dans cette œuvre que j'ai beaucoup fréquentée, mais bon, Je vois aussi beaucoup de films, bien sûr, d'autres cinéastes, y compris de cinéastes plus récents, de contemporains. Mais bon, ça m'a intéressé. Avec une collègue, Françoise Zamour, on a fait un séminaire à Normal Sup, justement, avec une quinzaine ou une vingtaine d'élèves et d'étudiants qui, pour la plupart, ont découvert ce cinéaste.
Alors et peut-être, si vous permettez, ils ont peut-être, puisque c'est la jeune génération, ils ont découvert ce cinéaste, mais pour des cinéphiles un petit peu plus mûrs, ils ont découvert à la faveur de la rétrospective et de l'ouvrage de Bernard Eisenschitz qui a été publié cet automne également après le festival de Lucarno qui lui a rendu hommage, la première partie du travail de celui qui est devenu Douglas Sirk, c'est-à-dire celui qui était à l'époque Detlef Sirk.
Sirk, oui.
Voilà.
Oui, parce que, encore une fois, en schématisant, mais on peut dire que une partie de l'œuvre américaine de Sirk, qui couvre une période assez longue, de 41 à 59, est assez bien connue et on l'a parfois un petit peu réduit à cette partie-là, ce qu'on appelle surtout les mélodrames flamboyants, donc des années 50. Ce qui se comprend très bien, puisque ce sont les films donc les plus accessibles, les plus spectaculaires sans doute, des films comme Mirage de la vie, qui est son dernier film hollywoodien, ou bien un film dont on va parler, qui est Écrit sur du vent, un petit peu antérieur, et quelques autres, notamment Tout ce que le ciel permet, Le secret magnifique, La ronde de l'aube, etc. Mais il y a donc une œuvre qui reste méconnue ou moins accessible. Et heureusement, d'ailleurs, en même temps qu'il y avait la rétrospective de la Cinémathèque, Capricci avait restauré, et enfin a ressorti en salle des versions restaurées, très belles, des films allemands. Parce que il faut donc rappeler un petit peu peut-être la biographie de ce cinéaste.
Tout à fait.
Qui est né. Parce que là aussi, il y a eu des légendes dont on pourrait dire un mot. C'est-à-dire que longtemps, on a dit qu'il était né en 1900. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais en fait, je crois que c'était en 99. Donc ça change pas grand-chose.
Ah,
mais
surtout, moi, j'ai lu 1897.
Oui, c'est possible que ça soit 97. Oui, plutôt que. Oui, vous avez raison. Mais on disait traditionnellement 1900. Bon, ça, c'est courant. Les dates de naissance, un petit peu fantaisistes pour des raisons pas toujours très claires. Mais surtout, on a longtemps dit qu'il était né au Danemark et que ses parents étaient danois. Et ça, je crois qu'on peut dire aujourd'hui clairement, c'est une légende. Mais je pense que cette légende avait une fonction bien précise. C'était de faire oublier, une fois que Sirk a finalement réussi à s'installer aux États-Unis et à Hollywood, qu'il avait été allemand et qu'il avait fait des films pendant le nazisme.
Jusqu'en 1937.
Voilà. Dire qu'il était, laisser dire en tout cas, qu'il était né au Danemark, que ses parents étaient danois, c'était une façon un petit peu de prendre une distance par rapport à cette première partie de sa carrière. Parce que, donc...
Pardon, si on revient sur sa biographie, ouais. Moi ce que j'ai tout de même lu, c'est qu'il était né à Hambourg de parents allemands et qu'il avait vécu une partie de son enfance ou de sa jeunesse au Danemark.
Oui.
Est-ce que ça s'est erroné ?
Il faudrait... Écoutez, c'est possible, mais je pense que ce qui est sûr, c'est la naissance à Hambourg et la nationalité allemande des deux parents. Alors qu'il ait passé une partie de sa jeunesse ou au moins des vacances à Skagen, au Danemark, aucun doute là-dessus. Mais enfin, toute sa formation, malgré tout... l'intérêt aussi du Danemark, c'est que ça a lancé une sorte de piste, je ne dis pas qu'elle est sans intérêt, mais qui permettait de le rapprocher de Dreyer.
Oui, de Dreyer. Et puis quand vous me parlez de Skagen aussi, là, il y a une école de la peinture danoise.
Une école de peinture,
voilà.
Absolument.
Et comme vous...
Une école de plein air.
Oui,
on a vu d'ailleurs dans les dernières années...
À Merchoy.
On a vu des des expositions, Royer aussi, un peintre, parce que Hammershaw était plus un peintre d'intérieur, très remarquable d'ailleurs, mais Royer qui a été exposé au musée Marmottan, et un peintre tout à fait passionnant, qui était d'ailleurs très connu à l'époque. Alors c'est une génération évidemment nettement antérieure à celle de Sirk. C'est des gens qui étaient actifs à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais bon, c'était aussi sans doute gratifiant de suggérer une comparaison possible, en effet, entre Sirk et Dreyer, grand cinéaste danois, et puis d'évoquer l'école de peinture de Skagen. Enfin, ce qui est incontestable, c'est que Sirk a fait ses études secondaires et supérieures en Allemagne, notamment à Hambourg, mais aussi à Munich. Il a pas mal voyagé. Une partie de sa biographie est quand même manifestement un petit peu fictive. Il a suivi entre autres des études de droit.
Oui, il a commencé par ça, mais visiblement en dilettante.
Voilà. Il dit avoir suivi les cours de Panofsky, le grand historien de l'art. Bon, il est incontestable. Ce qui est incontestable, c'est que c'était quelqu'un d'une grande culture, passionné de théâtre. Bien sûr, ça sera sa première carrière. C'est une carrière de metteur en scène dans plusieurs théâtres tout à fait prestigieux d'Allemagne, mais c'est aussi un passionné de littérature, et de littérature allemande, anglaise, plus tard américaine, française aussi d'ailleurs, pas seulement des dramaturges, mais aussi des poètes, des romanciers. Très jeune, il a traduit et publié une édition allemande des sonnets de Shakespeare, par exemple. Et aussi quelqu'un qui, très clairement, avait un œil de peintre, s'intéressait aux arts visuels de façon générale. Alors, ce qu'on peut dire sur sa carrière allemande, donc, c'est qu'elle commence au théâtre, où il est assez éclectique, on peut dire. Vous avez fait allusion au livre de Bernard Eisenschütz, qui est avant tout une biographie, plutôt qu'une étude critique, mais qui est très riche, notamment sur la période du théâtre allemand, parce qu'il a eu accès, d'abord il est germaniste, et puis il a eu accès à tout le fonds Sirk, qui finalement qui était à Zurich, qui a été déposé finalement à la Cinémathèque de Lausanne. Mais ce fonds est essentiellement en allemand, et il y a énormément de documents donc sur la carrière théâtrale, et il y a aussi alors des documents de nature personnelle, donc qui sont intéressants sur on va en dire quelques mots, parce que je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit, même s'il ne faut pas non plus en faire une espèce de passe-partout qui expliquerait toute l'œuvre. Mais ce qui se passe vers 1930, c'est que Sirk, qui était marié et qui avait un fils avec sa femme, se sépare de sa femme, qui est une nazie convaincue, et divorce et épouse une actrice qui est d'origine juive. Et ça, évidemment, ça va, on peut imaginer, compliquer terriblement sa situation, dans le sens où, venant de divorcer et de se remarier, et ne voulant pas abandonner son fils, il n'a pas fait ce qu'ont fait la plupart des artistes, notamment juifs de l'époque. Lui n'était pas juif, mais il avait épousé une femme d'origine juive. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti en 1933. Au contraire, il est resté donc pratiquement jusqu'en 1939. Il a essayé de partir, mais c'était effectivement une situation compliquée qui s'est aggravée du fait que la première femme, donc engagé au parti nazi, lui avait interdit de voir son fils.
Et elle avait même obtenu une décision de justice en ce sens.
Exactement.
Voilà. Et elle l'a poussé à devenir un jeune acteur, et alors, donc un jeune acteur des jeunesses hitlériennes, des films de propagande.
Le fils a effectivement a joué dans des films de propagande. Dans certains cas, on peut imaginer, mais là, il y a un romancier qui a écrit un roman là-dessus, qui est très bien documenté, mais enfin, ça reste aussi du domaine de la fiction, c'est-à-dire Denis Rossano, qui a écrit « Un père sans fils », où il imagine que Sœur tournait dans un studio berlinois et que dans le studio d'à côté, son fils tournait dans un film de propagande. Bon, ça... C'est bien imaginé, mais ce n'est peut-être pas vrai. Et Rossano va aussi jusqu'à imaginer que Goebbels, quand il a pris en main les studios de la UEFA, a fait exprès d'envoyer le fils de Sœur sur le front russe pour qu'il y soit tué, ce qui s'est effectivement passé. Bon, là, je crois que... Je reviens quand même à la chronologie qui est donc que Sœur a le sentiment, à partir de l'arrivée au pouvoir des nazis, que le théâtre est plus surveillé que le cinéma, au début au moins, à partir de 1933. Et donc, il va petit à petit abandonner sa carrière de metteur en scène de théâtre et passer... à la mise en scène de cinéma, et il devient quand même, on peut le dire, un des principaux cinéastes du début
du nazisme.
Mmh. Puisque
avec des
succès publics et avec notamment les films comme Paramatta, Bagne de femme et La Habanera, qui vont lancer avec grand succès Zara Leander, qui est une actrice d'origine, qui était une chanteuse d'abord, mais aussi actrice, qui va devenir une actrice et chanteuse, une des grandes stars du cinéma nazi, qui est un peu la réponse du cinéma nazi à Greta Garbo et Marlène Dietrich, puisqu'elle a un peu des traits de ces deux actrices qui sont toutes les deux parties à Hollywood après avoir travaillé en Allemagne. C'est-à-dire qu'elle est suédoise comme Greta Garbo, elle a aussi un petit peu le physique de Greta Garbo, mais elle est aussi chanteuse comme Marlène Dietrich.
Avec une voix grave.
Avec une voix assez rauque, une voix grave. On peut quand même, on peut se poser des questions sur, évidemment, la situation de Sœur que Zirk était plus ou moins inextricable.
À la fois personnellement, à la fois dans ses convictions, puisque visiblement dans ses films, ils ne sont pas des films de propagande. Chacun peut y trouver sa propre lecture et en faire la faire sienne.
Ce ne sont pas... Non, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de films de propagande. On peut trouver des éléments qui ne s'opposent pas nécessairement à l'idéologie nazie, mais enfin de façon assez vague. Disons que, par exemple, dans Paramatta, il y a une vision de la société anglaise qui n'est pas très flatteuse, mais à dire que ça serait un film qui serait de façon militante anti-anglaise, je crois que ça serait absurde. La Habanera est un cas peut-être un peu plus compliqué. Là encore, je ne vais pas dire que c'est un film nazi, mais c'est un film où il y a un contraste très net entre une culture, en l'occurrence censée être portoricaine, enfin latino, on dirait aujourd'hui, complètement décadente, et puis l'image de la Suède, comme un pays sérieux, avec des compétences scientifiques, tandis qu'à Porto Rico, il y a une espèce de corruption généralisée qui profite de... des épidémies pour enrichir une caste complètement décadente. Mmh. Et donc il y a une valorisation du personnage de Zara Leander qui s'est laissé prendre au charme exotique de Porto Rico et d'une espèce de potentat et presque de seigneur local, mais qui s'est rendu compte que ce qu'elle prenait pour un paradis est un véritable enfer, et qui va trouver le moyen de s'échapper justement avec son fils.
Si on revient à la première proposition de film que vous avez faite, donc la 9e symphonie, Schlussakkord, film de 1936, on pourrait un petit peu, après l'avoir écouté ce premier extrait, on pourrait un petit peu en parler. Alors l'extrait que vous avez choisi se situe presque à la fin du film.
Lehnte sie dies leider ab. Dennoch führte mich ein Unruhegefühl vor ihr Haus. Ich klingelte, da hörte ich plötzlich hinter meinem Rücken hastige Schritte. Es war Herr Garfenberg. Er befand sich in einer so hochgradigen Erregung, dass er mich zunächst gar nicht wahrnahm, wie sich ihn anregte.
Herr Zeuge, bitte erklären Sie sich doch etwas deutlicher. Welchen Eindruck hatten Sie von dem Gemütszustand des Herrn Garfenberg?
Ja, er erschrak sichtlich, als er mich an seiner Haustür erblickte. Und wenn ich ganz offen sein soll, ich kann mich nachträglich des Eindrucks nicht erwehren, dass Herr Garfenberg von einem furchtbaren Erlebnis förmlich gejagt seiner Sinne nicht mehr ganz mächtig war.
Warum haben Sie in der Voruntersuchung nichts davon gesagt?
Ja, eine vielleicht falsche, aber begreifliche Rücksicht, Herr Präsident, auf die verehrte Verstorbene, hielt mich davon zurück, Ihren Gatten...
Wollen Sie damit andeuten, dass Sie aufgrund Ihrer Beobachtungen in der Mordnacht den Eindruck gewannen, Herr Garfenberg könnte vielleicht mitschuldig am Tode seiner Frau sein?
Was soll das heißen?
Ruhe, bitte!
Der Ernst der Stunde und meine Eidespflicht gebieten mir zu sagen, ja.
Nein! Das ist nicht wahr! Glauben Sie dem da nicht!
Herr Garfenberg ist unschuldig! Um Gottes Willen!
Zeugin Frese, kommen Sie mal näher. Ich habe ja gleich den Eindruck gehabt, Sie verschweigen uns etwas.
Die Frau ist ja verrückt! Oder sie hat selbst etwas mit der Sache zu tun.
Ich? Sie? Sie haben Frau Garfenberg in den Tod gehetzt! Und jetzt wollen Sie auch noch Herrn Garfenberg ins Zuchthaus bringen.
Ich bitte das Gericht, mich in Schutz zu nehmen.
Nun, gar so schutzbedürftig scheinen Sie mir nicht zu sein. Warten Sie einstweilen draußen. Zeugin Frese?
Erst hat dieser Mensch da meiner Charlotte immer nachgestellt. Hat sie verdorben, durch und durch. Hat sie gequält und nicht mehr losgelassen, obwohl sie schon längst nichts mehr von ihm wissen wollte. Immer sind sie hinter ihr her gewesen. Er und sein Freund da, der Baron. Geld haben sie von ihr erpresst, Herr Richter, bis sie schließlich nicht mehr aus- und eingewusst hatte und sich selber umgebracht hat.
Ruhe! Wenn ich Sie recht verstehe, so hat Frau Garfenberg Selbstmord begangen? Wissen Sie das bestimmt?
Ich war ja dabei, als sie starb.
Also bitte, erzählen Sie.
Also das war so. Als ich aus der Apotheke zurückkomme und sage, so, da wäre ich wieder. Da hängt sie mit dem Kopf halb heraus aus dem Bett und sagt mit einer ganz veränderten Stimme.
Fris.
Soll ich dir Medizin geben? Was hast du denn da gemacht? Die ist ja leer.
Fris. Krieg keinen Schreck. Ich
sterbe. Du! Du verstellst dich doch bloß.
Sagt niemand etwas von Karl Otto. Mein Mann darf nichts wissen. Lass nichts auf sie rausholen. Vergiss mich nicht.
Du!
Charlotte gehen. Du, habe ich immer zugesagt. Aber da hat sie schon nichts mehr gehört. So war es.
Und da wollten sie ihr Gewissen mit einem Meineid beladen. Und diese Frau, die ihnen niemals im Leben etwas Böses getan hat, ins Unglück bringen.
Entschuldigen Sie nur, Frau Müller. Herr Garvenberg, verzeihen Sie mir, aber ich durfte doch nichts sagen. Ich hatte es ihr ja versprochen. Im Tode.
Voilà. Alors, Chose Accord, à mon avis, est vraiment le meilleur, le plus intéressant, le plus riche des films allemands de Sork. C'est un film, comme le titre l'indique, Chose Accord, accord final, traduit parfois par la 9e symphonie. Mais c'est un film alors, qui illustre parfaitement ce dont Sork a parlé à de très nombreuses reprises, c'est mélodrame, ça veut dire drame plus musique, mélos. Bon. Alors, il faut dire quelques mots de la situation et de l'action. On a comme personnages principaux un chef d'orchestre et sa femme. Alors, c'est un ménage, un mariage mal assorti, de toute évidence. Le chef d'orchestre, joué par Willy Bergel, qui est un acteur habituel de Sork, et se consacre presque complètement à sa carrière internationale. Sa femme, qui est jouée par une grande actrice allemande de l'époque, qui a joué chez Fritz Lang, Lille Dagovert, se sent de façon assez légitime, négligée. Ce qui aggrave la situation, c'est qu'elle est tombée dans les raies d'une sorte de
mage amant.
Oui, il se présente comme un astrologue scientifique, mais enfin, il est évident, c'est une espèce d'escroc, faux devin, faux naturopathe, tout ce qu'on veut, avec qui elle a une liaison, mais qui est absolument odieux, qui l'a fait chanter en lui extorquant de l'argent, en menaçant de publier un livre où il révèle leur liaison, etc. Et donc, il y a ce couple assez déséquilibré. Et puis, il y a une jeune femme qui, elle aussi, a eu des malheurs. Ça commence, le film commence à New York. On voit le soir de la Saint-Sylvestre, 31 janvier.
Le 31 décembre,
bien sûr. on voit un homme qui se suicide. Et on voit sa femme qui est très, très malheureuse, qui se retrouve donc tout d'un coup veuve avec un jeune enfant sur les bras. Et alors autour d'elle, des voisins plutôt compatissants, un rapport qui s'établit par le biais d'un concert qu'elle entend à la radio, un petit peu...
Ce n'est pas n'importe quel concert, c'est la Philharmonie de Berlin qui joue. Donc alors, magnifique concert.
Qui a un rôle plutôt consolateur quand même, et bien entendu, c'est le chef d'orchestre qui joue. Bon. Et à la suite de diverses péripéties, le couple du chef d'orchestre et de sa femme pense que peut-être ça serait bien qu'ils adoptent un enfant, que sa remettrait...
rallumerait les feux de l'amour.
Oui, enfin, en tout cas, ça ressoudrait ce couple plutôt désuni. Leur choix va se porter sur l'enfant de la jeune veuve qui a trouvé le moyen de revenir en Allemagne d'où elle était originaire, donc de quitter les États-Unis pour revenir à Berlin, et qui, selon évidemment une thématique assez caractéristique du mélodrame, va être engagée pour être la nurse de son propre enfant, sans que évidemment le couple qui adopte l'enfant le sache. Et donc à partir de là, l'intrigue va se nouer, c'est-à-dire que le père adoptif, le chef d'orchestre et Hannah, la vraie mère de l'enfant,
Devenue nurse,
ont tendance à sympathiser, à se rapprocher, et ce qui ne fait qu'aggraver la situation, puisque la Charlotte, la femme du chef d'orchestre, ne peut pas ne pas s'en rendre compte, ça attise sa jalousie, sa frustration. Et puis alors elle a une sorte de complice qui est la gouvernante Fraise, qui l'a élevée, qui est pour elle une sorte de mère
une mère de substitution,
de grande sœur, même peut-être un peu amoureuse d'elle. Il y a quand même
vous avez raison, liaison homosexuelle implicite.
Ça fait penser à Rebecca et à Mrs. Danvers, n'est-ce pas, dans le film de Hitchcock.
La gouvernante outrepasse.
Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs c'est elle. Donc Fraser, dont le témoignage va d'abord accabler la nurse qui est accusée d'avoir empoisonné sa mère adoptive, et dont le coup de théâtre, il y aura le revirement et le retour de Fraser qui admettra qu'elle a menti parce que elle avait juré à sa patronne, à sa maîtresse, sans mauvais jeu de mots, qu'elle ne dirait rien sur son suicide, ce qui est un suicide, parce que ça révélerait à son mari ce qu'il ne sait pas de façon certaine, c'est-à-dire les infidélités de sa femme, ses rapports donc avec l'astrologue Carlotto, etc.
Oui, on est là avec un coup de théâtre final au sein du procès qui permet de rétablir la vérité des faits par un flashback. C'est-à-dire que là, effectivement, jusqu'à présent, on ne sait pas si la mère nurse a cherché à se débarrasser de la rivale mère adoptive. C'est tout ce qu'on peut penser en voyant le film. Et puis finalement, quand il y a ce coup de théâtre final au procès, que la gouvernante décide à dire la vérité, on apprend que non, c'était bien un suicide, parce qu'elle ne voyait pas d'issue. Elle voyait bien qu'avec cet enfant adopté, elle n'avait pas vraiment de relation. C'est une relation qui restait superficielle. Il n'y avait pas une vraie affection qui s'était tissée, un lien. Et elle voyait bien également qu'avec son amant, la relation était finie, et heureusement qu'elle était finie, et avec son mari, elle l'avait déjà perdue. Donc en fait, il n'y avait plus d'issue pour sa propre vie. La seule issue, c'était effectivement d'en finir.
Tout à fait. C'est-à-dire que... alors en même temps, ça aussi, ce sont les techniques narratives ou dramatiques du mélodrame pour préparer le coup de théâtre. Il y a eu... Alors le film... Schlussakkord, donc, est un film musical à beaucoup d'égards. Il y a plusieurs scènes où on voit ce qu'on entend à la radio, mais il y a des scènes de répétition, des scènes de concerts symphoniques ou autres en public. Il y a aussi des gens entre eux qui font de la musique de chambre, etc. Enfin, c'est un film plein de morceaux musicaux. Et entre autres, il y a un morceau très curieux d'un opéra qu'on n'arrive pas à identifier, mais en fait, selon toute probabilité, c'est le compositeur de la musique autre que préexistante pour le film qui a inventé cette scène, qui est une scène d'empoisonnement. Mmh. Le spectateur, dans un premier temps, ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Il a vu Charlotte, l'épouse. Il a vu Fraser, son ami dévoué. Il a vu Anna, la mère de l'enfant. Mais tout ça n'est pas très clair. Et pour ajouter aux indices qui, a priori, même si ça paraît très monstrueux, parce que Anna nous a toujours été présentée comme quelqu'un de dévoué à tous égards, et on voit pas, enfin, ça paraîtrait assez monstrueux qu'elle décide d'empoisonner son employeuse, mais elle a un cauchemar, et ça, dans la scène du procès, elle reconnaît quand on l'interroge, elle dit oui, j'ai rêvé que j'empoisonnais Madame Gardenberg, mais je ne l'ai pas fait. Mais évidemment, elle semble s'incriminer elle-même, et le spectateur a vu ce cauchemar où elle rêve qu'elle lui donne plus que les 10 gouttes de morphine qui doivent l'endormir. Et effectivement, alors il y a la scène du procès avec les dépositions successives. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est intéressant, c'est... cette scène de procès, évidemment, comme toujours, toutes les scènes de procès, de façon diverse, mais c'est une espèce de mini-théâtre, un théâtre en rond. La caméra suit de très près tous les témoins successifs. Alors, les témoins successifs, c'est évidemment l'accusé, Anna, son mari... Carl Otto, l'astrologue, qui essaye d'incriminer aussi le mari en disant, enfin laissant supposer qu'il est complice de sa maîtresse, qui n'est pas du tout sa maîtresse, Anna. Mais c'est-à-dire, il y a eu d'abord le témoignage de Fraser, puis celui de Carl Otto, mais le témoignage de Carl Otto étant lui-même tellement à charge, mais visiblement mensonger, que c'est ce qui détermine Fraser à intervenir. Alors elle revient, elle est rappelée par le président du tribunal, et elle dit non, c'était pas vrai, elle était ma maîtresse était à bout, elle était persécutée par Carl Otto et le baron qui la faisait chanter, etc., etc. Mais j'avais juré de ne rien dire pour que sa réputation reste intacte auprès de son mari. Elle s'est suicidée, et c'est là que, de façon assez intéressante et inhabituelle, peut-être, on voit d'ailleurs au début une image, une sorte de diptyque avec... Fraser qui raconte ce qu'elle a vu, et puis le début du flashback, et ensuite uniquement le flashback. Donc, mais alors ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce tribunal, c'est très curieux parce qu'il y a un grand tableau représentant, alors ça c'est banal, une figure de la justice, mais... qui joue, ça se trouve ailleurs, mais qui joue sur le fait qu'elle a les yeux bandés, très, très clairement. Bien sûr, signe d'impartialité, mais aussi signe d'aveuglement. Mais ce qui est très étrange, c'est que c'est peint avec un décor qui paraît complètement exotique, peut-être nord-africain. Enfin, c'est une bizarrerie dans ce tribunal de voir sa vie. Alors, tout à la fin, alors il y aura... Parce que le procès, c'est vraiment la dernière partie, mais il y aura un final en musique, triomphant, évidemment, puisque c'est une espèce de happy end que ne laissaient pas supposer les événements dramatiques précédant le procès.
Qui se sont enchaînés depuis le début du film.
Et oui, pratiquement. Bah, le film commence quand même par un suicide et se termine par un suicide, par le procès, mais enfin par une scène tirée d'un oratorio de Handel, Judas Maccabée, l'image d'une famille enfin reconstituée avec le père adoptif, la vraie mère et l'enfant.
L'enfant qui avait été abandonné.
Abandonné et mal adopté ou seulement à demi adopté dans un premier temps.
Effectivement. Merci Jean-Loup Bourget pour ce premier épisode consacré à quelques procès contenus dans l'œuvre cinématographique de Douglas Sirk, né Hans Detlef Sirk, et nous allons nous retrouver pour d'autres épisodes. Merci à Léobardo Arango, merci à Marin Hirsinger pour leur présence constante et bienveillante à nos côtés. Merci.